quand tu prends le bus, est-ce qu'en sortant tu t'attends à jouer?
Jouer à quoi?
Je sais pas,
Au
à Fortnite?
Monopoly? Ah, ouais.
Mais non, t'as plus l'âge. Bonjour Méman,
Comment
bonjour
ça, j'ai
Mad.
plus
Bah
l'âge?
oui, bonjour Mad Belle, bonjour Doudou, bonjour Flo, bonjour Laurie.
Bonjour
Gisèle,
bonjour tout le monde.
Et bonjour l'équipe, bienvenue dans Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Aujourd'hui, le sujet abordé est celui de Roudoudou. Alors, tu prends le bus cette fois?
Tout à fait, je vais vous parler de game design.
Ah, bien. Mais avant de vous parler d'actu, il y a un message important à vous donner. À savoir, action, réaction. Une semaine pour soutenir Radio Méga, ça se passe du 11 au 17 novembre. Cette campagne de dons intervient dans un contexte marqué par des menaces budgétaires sur les radios associatives. En soutenant Radio Méga, vous défendez la diversité et la culture populaire. Des émissions comme Underscore sont animées par des passionnés, autrement dit nous, et qui partagent cette mission. Pour apporter votre soutien à votre radio favorite, rendez-vous sur radio-mega.com.
Ouais.
Et tout de suite, un peu d'actualité. Alors, MMU, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui?
Alors, eh ben, on a Ubuntu qui a 20 ans. Ouais, la distribution a été lancée en 2004 déjà. Une page sur le site officiel détaille les jalons de son histoire et propose quelques interviews en vidéo. Même si d'autres distros sont recommandés maintenant pour débuter, comme Mint, Ubuntu a permis quand même de largement démocratiser GNU Linux en montrant qu'on pouvait simplifier l'installation et l'utilisation. Donc, bon anniversaire Ubuntu.
Et Flo, on t'écoute pour la suite, à la CAF.
D'accord. Eh bien oui, je croyais que j'étais à la fin, moi, mais d'accord. 15 organisations attaquent la CAF devant le Conseil d'État. Avec 14 autres organisations, dont le MFRB, c'est-à-dire le Mouvement Français
ah, oui.
pour un revenu de base, Aequitas et la LD... enfin, je ne sais pas comment ça se prononce, Aequitas peut-être,
ouais.
et la LDH, donc la Ligue des droits humains, de droits de l'homme.
Mmh.
La Quadrature du Net attaque l'algorithme de scoring de la Caisse nationale des allocations familiales, la CNAF donc, et pour faire cesser la surveillance de masse et la discrimination envers les plus précaires que cet outil implique.
La fondation Mozilla licencie 30% de ses effectifs. Ouh là là. Oui, le Monde Info indique que cette coupe entraîne la fermeture de la division liée à la défense des droits et celle sur les programmes mondiaux. Ouais, tout va bien. Next, quant à eux, rapporte que sur la fin de la branche advocacy ou plaidoyer, Brandon Borman apporte une précision importante. Nous tenons à préciser que la restructuration n'a pas abandonné le plaidoyer. Bien au contraire, le plaidoyer est toujours un principe central du travail de la Fondation Mozilla et nous sommes en train de revoir notre approche à cet égard. À croire que Google ne leur donne plus leur bol annuel, je ne sais pas.
Ça, il faut bien le savoir,
c'est...
on ne sait pas.
Ouais.
Eh bien, on aura bientôt le rapport de l'année d'avant.
Oui.
Le rapport financier.
Ouais, c'est ça.
Eh bien, merci pour l'actualité. Nous allons passer par de la musique et après nous reviendrons avec Roudoudou qui nous parle de gaming design, de game design sous contrainte. À tout de suite. We'll be right back. Il s'agissait de Hydre, donc on salue. Désolé, j'ai dû couper ta musique pour rester sur 3 minutes parce que oui, le sujet de Rodoudou, après, il est un petit peu long. Donc voilà, c'était.
C'est ma faute.
C'était la musique Illustri Borderline by Pulpo Corrosivo, une démo CPC qui a été présentée à la Bénédiction Party le week-end du 2 novembre 2024.
Ah ouais.
Voilà. Allez, on passe à toi, Roudoudou.
Eh bien,
on t'écoute.
Eh bien, je voulais vous parler de game design sous contrainte. Je fais pas mal de rétrospectives de jeux vidéo parce que la technique m'intéresse et que j'aime comprendre comment ou pourquoi tel ou tel jeu fonctionne de cette façon et pourquoi il a été conçu comme ça. Est-ce que c'est voulu ou bien est-ce que c'est arrivé par hasard ou est-ce que ça a été subi? Alors, par exemple, je vais vous parler de Cassé Munchkin. C'est un jeu vidéo sorti en 1981 qui est plagié copieusement sur Pac-Man. Alors, il y a des pastilles à récupérer. Et ces pastilles se promènent dans l'espace de jeu, protégées par des fantômes. Donc, ça ressemble beaucoup à Pac-Man, sauf que les pastilles ne sont pas statiques, elles bougent. Il y en a une douzaine à récupérer et elles bougent très lentement au début. Mais au fur et à mesure qu'on récupère les pastilles, le jeu s'accélère, ce qui le rend d'ailleurs d'autant plus intéressant, car il y a une montée en tension jusqu'à récupérer la dernière pastille. Donc la difficulté augmente progressivement, ça se fait naturellement et c'est très addictif. Et si je vous disais que ce gameplay a une origine totalement involontaire? Et oui, donc en fait nous sommes en 1981, la puissance des machines est très faible et il faut réaliser le moins d'opérations possible à chaque fois, à chaque affichage d'écran, on va dire. Alors, il se trouve qu'il y a quelques années, je me suis amusé à programmer un clone de ce jeu sur mon Amstrad préféré, et pour équilibrer l'utilisation de la puissance, j'ai simplement décidé de ne traiter qu'une pastille à chaque tour de moteur. Donc, avec 12 pastilles, chaque pastille ne bouge qu'une fois sur 12. Et avec 5 pastilles, une fois sur 5, et avec une seule pastille à chaque tour. Donc, on a 12 pastilles, ça fait 12 vitesses différentes, et en fait, ça se fait tout seul. C'est-à-dire que si j'avais fait une boucle pour dire je vais traiter toutes les pastilles actives, ça aurait pris plus ou moins de temps machine, mais il y aurait toujours eu la même vitesse. Voilà. Et là, ce qui est sympa, c'est que les limitations de la machine ont orienté le game design, et ça a donné au final quelque chose d'intéressant et, comme je disais, d'addictif. Alors par exemple, je voulais vous parler... Je vais vous parler de plein de jeux différents, hein. J'ai plein d'anecdotes en fait.
Génial.
Donc on a Will Wright qui travaillait sur son premier jeu, une simulation d'hélicoptère. C'est sorti sur Commodore 64 en 1984 et sur NES en 1985. Donc c'est un jeu en vue de dessus, ça dessine le terrain d'opération et si on regarde des vidéos du jeu, on s'aperçoit que l'hélicoptère, une fois qu'il a traversé le désert, il va survoler des villes qui ressemblent beaucoup à SimCity. Et en fait, ce qu'il a trouvé amusant en concevant ce jeu vidéo, c'était de créer les villes, placer des routes et poser des bâtiments. Et son jeu d'hélicoptère, ça ne l'a pas trop intéressé. Il s'est dit, suite à ça, que ce serait sympa de faire un jeu où on crée des villes. Et c'est ainsi qu'il a créé SimCity. Alors, ses premiers jeux de création de villes ont subi les contraintes techniques comme les autres. Donc, pour rappel, on a une mémoire limitée, ce qui implique peu de graphisme et une carte de jeu réduite. On a donc des bâtiments ou des morceaux de route à placer sur une carte, mais cette carte, dans notre mémoire, est une sorte de damier de taille limitée, et pour chaque case, on associe un dessin. Les consoles 2D sont conçues matériellement comme cela, on appelle cette carte la tile map, et chaque valeur de la tile map fait référence à un des 256 sprites possibles.
C'est des tuiles.
Ouais, il n'y en a pas plus, des tuiles en français. Donc la première contrainte, c'est qu'il va falloir choisir quels sont ces 256 sprites. Tu vas pas me forcer à dire lutin quand même. Si,
si, bah essaie.
Donc dans SimCity, on a des bâtiments rectangulaires qui occupent 6 cases. On a la centrale électrique, les commerces, les habitations, les usines. Et avec les routes, les arbres et la mer, et quelques variations, on arrive très vite à 256. Donc les graphistes devaient redoubler d'imagination pour mutualiser chacun de ces 256 morceaux. Et sur la base de ces limitations, par exemple, j'ai souvenir d'un jeu qui s'appelle Dragon Ninja, dont des éléments avaient été agencés différemment. Et par exemple, on avait un semi-remorque dont des bouts du semi avaient été repris pour modéliser l'hélicoptère dans le dernier niveau du jeu. Donc là, pour le coup, c'est plus le programmeur, là, c'est les graphistes qui cherchent à reprendre des éléments.
En fait, ils reprennent les éléments, un peu comme quand on fait des formes avec, tu sais, le jeu avec les différentes formes géométriques, là.
Voilà, donc après, ça peut être des morceaux de buissons qui servent à construire des arbres. C'est-à-dire que tu prends 5-6 buissons, tu les agences autour les uns des autres, puis tu rajoutes un tronc, ça t'a fait un arbre avec le même dessin que le buisson. Donc t'as économisé de la mémoire. Donc avec un peu plus de mémoire, on peut faire sauter ces contraintes, hein, bien sûr. Ainsi, dans SimCity 2000 qui sort en 1994, on voit enfin apparaître un peu plus de variété, donc beaucoup plus de bâtiments, des autoroutes, mais le jeu reste désespérément carré. Donc là, c'était plus une contrainte de performance. Alors, on va continuer dans les années 80, enfin, on va revenir dans les années 80 avec les premiers jeux à la première personne, en 3D texturé. Mais comment ça, en 3D texturé?
Oui, on est en 80 quand même.
Oui, alors, voilà, c'est pas un FPS non plus. Hein. On se retrouve au milieu d'un donjon très, très, très orthonormé. Comprendre par là que tracer la carte d'un tel donjon, ça se ferait sur une feuille de papier quadrillé et qu'on se déplacerait à chaque fois au centre d'une case, ne pouvant regarder que dans les quatre directions correspondant aux points cardinaux. Ouf, alors cette disposition permettait de résumer un lieu à un seul bit dans la mémoire. Donc mettons que si on avait 16 kilo-octets de mémoire pour le jeu, on avait déjà 128 000 lieux, ce qui est énorme. Et en fait, alors du coup, j'ai tracé un peu quelques jeux et donc pour voir qu'en général, les cartes étaient bien plus petites. Par exemple, dans The Bard's Tale, il y avait 17 donjons ou villes et le damier ne faisait que 22 cases par 22 cases. Donc l'ensemble géométrique pouvait se stocker dans un seul petit kilo-octet. Alors pourquoi cette petite taille? Je pense qu'il faut chercher la raison sur la façon dont les niveaux ont été créés. On n'avait pas de tableur Excel à l'époque ou d'éditeur d'images. Donc les niveaux, c'est ce que j'ai déduit, hein, ont probablement été conçus avec un éditeur maison écrit en basique ou en mode texte, ou même plus simplement sur une feuille de papier quadrillé A5. Et de là a dérivé la contrainte et le jeu qui est donc avec des damiers petits. Donc l'affichage de ce genre de jeu porte rarement, c'est-à-dire que la vision porte rarement plus loin que 2 ou 3 cases. L'algorithme de rendu est très simple, hein, il est même possible de faire un jeu complet en basique. On aura donc une ribambelle de ce type de jeu appelé les Dungeon Crawlers. C'est basé sur ce principe. Alors parmi les plus célèbres, on aura Dungeon Master ou Bloodwitch. Et on mettra des années à sortir de ce level design, hein, même Wolfenstein 3D, dans lequel on aura plus de liberté sur les angles de vision, restera sur ce type de géométrie très quadrillage. Alors, quand Doom apportera enfin un peu d'arrondi dans ces mondes à angle droit...
Alors là, du coup, on change d'époque, on est dans les années 90.
Alors là, c'est le début des années 90, effectivement. Mm-hmm. Donc quand Doom apporte un peu d'arrondi dans ces mondes à angle droit, il ne sera pas exempt de limitations. On aura uniquement des murs verticaux, des sols plats, impossible d'avoir une pièce au-dessus d'une autre, alors que l'affichage semble être en 3D, d'où son surnom de jeu en 2,5D ou 2D rehaussé. Mais qu'est-ce qui empêche de mettre deux sols plats l'un au-dessus de l'autre? Et bien, ceci est dû à l'algorithme de visibilité, et son importance est décisive. En chaque endroit du jeu, cet algorithme permet de faire un tri sur les données qui vont être utiles pour l'affichage. Alors ça peut s'appeler aussi, je crois, le portal, l'algorithme portal. Doom utilise un BSP, qui est un arbre qui divise l'espace en zones convexes, et c'est plus simple de l'utiliser en pur 2D. Sinon, on peut partitionner ce qu'on veut avec un BSP. On aurait pu partitionner de la 3D, mais disons qu'à l'époque, comme on avait toujours... on avait plus de mémoire, mais moins qu'aujourd'hui. C'est toujours pareil. Hein. Donc, la plupart des imitations de ce genre s'estompent avec les années, car la puissance et la mémoire disponibles augmentent. Mais on trouve toujours des jeux dont le design global subit les contraintes. Alors, Descent, je vous en parle dans tous mes articles, hein, de ce jeu de fou, hein, le premier FPS entièrement 3D corrigé, illuminé, texturé, eh bien son design de couloir n'est pas dû au hasard. N'oublions pas qu'on est dans un vrai jeu en 3D, la carte du jeu s'affiche elle aussi en 3D, avec des couloirs qui partent dans toutes les directions, en haut, en bas, droite, gauche, bon. Et quel algorithme de visibilité peut-on utiliser avec une telle architecture? Et donc là, son portal rendering Il utilise un algorithme qui divise l'espace en zones convexes. On peut regrouper chaque petite zone en groupe et ajouter une information de visibilité entre groupes pour gagner du temps. Donc l'idée, c'est de vraiment décrémer le plus de données possible pour avoir le moins de données à traiter pour faire l'affichage.
On a optimisé, en fait.
Voilà, oui, c'est ça. Donc on va faire des groupes de boîtes et selon les groupes vus, on va ensuite traiter leurs boîtes. Alors l'idée de génie derrière le choix de cet algorithme a été de fabriquer le level design à base de cubes déformés. Parce que si tu déformes un cube, il reste convexe. Et ça ne change pas la méthode de visibilité qu'on peut lui appliquer. Et donc la géométrie du jeu, c'est en assemblant différents cubes déformés. Donc on retrouve des arrondis, des angles entre les murs qui ne sont pas obligatoirement droits, etc. Mais en fait, c'est des cubes. Donc les jeux en 3D continuent d'évoluer. Mais un détail irritant gêne souvent la vue lointaine dans certains jeux, un brouillard. Donc certains s'en rappellent, il y avait vraiment un voile gris très rapidement. Donc on a ça dans plein de jeux, en particulier des jeux de voiture, mais on a ça aussi dans les premiers jeux sur les consoles Nintendo 64. Et on aimerait parfois voir plus loin pour mieux anticiper les virages. Voilà, donc ce brouillard, c'est une limitation technique destinée à traiter moins de polygones. Il n'y a rien de pire quand il fait beau dans son jeu de voiture de voir subitement apparaître des arbres juste devant soi.
Ça m'est jamais arrivé.
Eh bien, un studio va avoir l'idée d'intégrer cette limitation dans son gameplay. C'est Konami avec Silent Hill, un jeu survival horror où le héros part à la recherche de sa fille dans une ville fantôme. Et donc ça se passe...
Dans plein de brouillard.
Voilà, on ne sait pas trop si c'est la nuit, le jour, mais voilà, il y a un brouillard, il y a une brume, et là c'est volontaire, ça fait partie de ça. Et la brume renforce cette sensation oppressante, alors qu'on évolue dans un monde extérieur. Et donc au final, ils vont garder cette idée pour l'opus suivant, qui sort sur PS2, alors que la console est 50 fois plus puissante et aurait pu permettre de supprimer cette brume. Mais comme en fait ça avait été un élément intéressant, ils se sont dit finalement on va le garder. Alors la limitation d'affichage continue de créer du gameplay chez les plus malins. Je pense qu'on a tous en tête différents jeux de voiture avec des murs invisibles sur les côtés qui empêchent de trop s'éloigner de la route. Donc...
Oui, ça fait un peu le principe de l'arcade en fait.
Oui, c'est ça, on est très... comment dire, on nous dirige limite, hein. Donc vous savez, voilà, la voiture qui se met à glisser ou à buter contre rien. Alors c'est pas grand chose, il suffisait d'ajouter des buissons ou des arbres pour justifier qu'on ne sorte pas du terrain de jeu. Et dans le très vieux jeu Crazy Cars 2, donc là, années 80, eux ils ont eu une autre approche, parce qu'ils n'avaient pas la puissance pour mettre les buissons, et ils voulaient pas juste qu'on se bute sur le bord, sur un bord invisible. Donc chaque fois qu'on sortait de la route, il y avait un décompte qui apparaissait, et si tu persévérais dans l'idée de faire du hors-piste, la voiture finissait par exploser.
Ah.
Mais ce décompte motivait le joueur à revenir rapidement sur la route, et voilà, on avait créé du gameplay à partir d'une limitation technique. Et sinon, il y a une autre raison derrière ces jeux de voiture dont le circuit n'est qu'un couloir étroit, c'est l'organisation des données et la mémoire limitée sur les consoles. Donc si sur PC on n'avait pas trop ce problème de mémoire, quand on voulait porter un jeu PC sur console, ça permettait de réduire la quantité de décors avec un terrain qui était très étiré en longueur. Et cette grosse économie a permis de voir apparaître des jeux de voitures avec des circuits très longs, donc je pense à Need for Speed par exemple. Donc voilà, donc on jouait avec ces contraintes techniques pour faire autre chose ou en tout cas aller plus loin. Plus tard, Motocross Madness, au terrain de jeu carré, très limité, on pouvait aller où on voulait, mais il fallait rester dans le carré. Donc il va reprendre ce concept de limitation avec des murs très très hauts, quasi infranchissables, ça c'est ce qui va marquer les limites. Mais si tu réussissais à y grimper et que tu continuais à t'éloigner, alors ta moto et ton pilote se faisaient exploser et projeter en l'air, direction le centre du terrain de jeu. Donc là, c'est pas un nouveau gameplay, mais c'est plutôt une façon amusante de rappeler les limites. Alors, dans des jeux d'exploration où on est soi-disant libre, par exemple une ville, plutôt que de laisser le joueur tester toutes les portes, on pouvait mettre des signaux visuels, donc des barricades ou des éboulements. Et puis, en fait, ça tombait bien pour notifier aux joueurs qu'il n'allait pas pouvoir ouvrir cette porte ou il n'allait pas pouvoir aller par là. Plutôt qu'il bute contre une limite, ben voilà, on mettait des barricades. Et en fait, ça tombe bien parce que ce style-là de design, c'est post-apocalyptique, c'est très apprécié des joueurs. Et plus futé encore, il y a certains jeux qui dirigent le joueur avec une succession de bonus à récupérer. Et en fait, ça oriente le chemin, comme le petit pousset qui viendrait looter ses cailloux jusqu'à la fin du niveau. Et en faisant ça, en fait, en allant juste chercher les bonus, il y a Nintendo qui aime bien faire ça aussi. C'est-à-dire que tu prends un bonus, tu tournes, oh j'en vois un autre plus loin. Et donc,
tu suis un parcours invisible.
Tu suis le parcours invisible. En fait, tu peux aller nulle part ailleurs, mais comme tu es guidé par ces bonus, tu ne vas pas te rendre compte que tu as des limites invisibles ou des murs. Voilà. Donc là, on a créé du game design sur une limitation. J'ai perdu l'endroit où j'étais.
Et on se joue de vous.
Voilà, je disais, ouais, on se joue de vous. Alors sinon, on en a déjà parlé dans un article précédent. Ceux qui jouent à Fortnite doivent connaître le bus. Le bus qui survole la zone de jeu pour un battle royale et distribue progressivement les joueurs sur la zone. Donc pourquoi un bus plutôt que faire apparaître tout le monde simultanément dans l'espace de jeu ? Eh ben, il faut savoir que même aujourd'hui, réaliser un jeu vidéo en ligne temps réel avec beaucoup de joueurs est quelque chose de difficile. Donc j'en parlais il y a quelques semaines, ce qu'on appelle la réplication serveur, à savoir que chaque joueur, à chaque instant, sache exactement où se situent les autres joueurs. C'est hyper important, mais c'est très gourmand. Donc plus il y a de joueurs, plus il faut envoyer de données à chaque joueur. L'augmentation est pas loin de l'exponentielle, hein, le volume croît avec le carré des données. Donc là, une fois de plus, des limitations techniques avaient obligé à introduire un gameplay qui permettait de s'en accommoder, donc le bus, qui est célèbre aujourd'hui pour ça. Et donc ça, c'est encore le gros point noir qu'on se traîne hein, depuis des décennies et qui explique que certains jeux en réseau sont très vides, avec soit peu d'adversaires, soit peu de trafic. Donc je pense ici aux jeux de voiture, hein, supposés se jouer sur route ouverte, et là, bon, clairement, on subit les contraintes.
Wow.
C'est voilà. Bien.
Ouais, ouais, ouais.
C'est plein d'astuces qu'on s'imaginait pas alors qu'on était juste en train de jouer à des jeux où il y avait énormément de contraintes finalement.
Bah, moi, ma seule contrainte, c'est que j'ai jamais le temps de jouer. Donc, le seul jeu que j'ai vraiment fini, c'est Frozen Bubble parce que je m'ennuyais beaucoup, beaucoup aux toilettes.
Et comment tu pouvais aller aux toilettes et jouer à Frozen Bubble ?
Avec une tablette.
Ah, d'accord. Ah. Ok. Bon, chacun son truc. Hein.
Ah oui. Hein.
Tant que t'avais non, pas.
Mais j'ai vu la fin. Bon, c'est un peu décevant, mais.
Moi, je veux savoir si tu avais un obturateur sur la tablette, sur la caméra de la tablette ou pas.
Ah, ça, on ne sait pas.
Si, on a les images.
Ah, on va regarder. Attendez, tout de suite, on va vous donner les images et le lien sur le blog. _.radio.fm, n'oubliez pas.
Oh, crotte alors.
Eh bien, merci Rodoudou pour ton sujet intéressant. Voilà de belles découvertes de ces astuces qu'on ne savait pas. Allez.
Nous sachons maintenant.
Nous sachons. On écoute une petite musique et ensuite on se retrouve pour l'agenda. À tout de suite. We'll be right back. Non, mais il n'aurait pas abusé de la stéréo, là. Il s'agissait de Jamian, qui a réalisé une musique pour la Recyclade Bug d'Ab. Boston Team, une musique à illustrer une démo sur Amstrad Plus qui a été classée quatrième, je crois.
Non, c'est la bénédiction de Colony Party 4. Les votes sont encore en cours.
Ah mince.
On sait pas.
Sérieux?
On n'a pas le classement encore.
Ah.
Une semaine après, presque.
Parce que ça se fait en. Enfin,
ah, ça se fait en ligne, les votes?
Ça se fait en ligne, ouais.
Mais.
Pour tout. Enfin, il n'y a pas que les gens présents qui peuvent voter. Donc. Ah ouais.
Mais t'as raison, en fait, j'ai pas vu le classement.
Ah, c'est comme les élections, en fait. Une semaine après, on n'est pas encore.
C'est
sûr.
Vrai. Oui, parce que j'ai vu le chiffre 4, je me suis dit, c'est bon, c'est le 4. Mais non.
Ah bah non. Raté.
Toutes mes excuses. En tout cas, merci d'avoir abusé de cette stéréo. Ça nous a fait tous plaisir. Si vous aviez vos haut-parleurs qui faisaient des trucs bizarres, c'était nous. Cherchez pas, c'était nous.
Okay.
Allez, on passe à l'agenda avec Matt Bell. Je t'écoute. Qu'est-ce qu'on a?
Alors, Montréal Python, MP108, du réseautage, de présentation, des discussions autour du langage Python le mardi 12 novembre de 17h à 20h30, 6e étage du NAT, École des arts numériques, de l'animation et du design, 1501 rue de Bleury, Montréal, Québec.
Bah attends, tu précises vraiment le 6e étage, tu crois que moi je vais aller au Québec?
Bah pourquoi pas.
Tabarnak.
Ah. Allez, soirée libre, Bidouille Linux 07, ce rendez-vous mensuel vous propose d'accompagner les utilisateurs et les utilisatrices de logiciels libres dans la résolution de leurs problèmes informatiques. Tous les mercredis du mois à partir de 23 septembre 2023, bah, bref.
Tous les deuxièmes.
Ouais, c'est tous les deuxièmes. Tous les deuxièmes. Alors, ce sera le mercredi 13 novembre, place de la Chapelle, rue de la Chapelle, à Saint-Prix.
Alors, permanence résine à Cré. Venez rencontrer Rezin, un fournisseur d'accès Internet qui défend une vision politique et des technologies et des réseaux. Pour discuter, devenir membre, poser vos questions sur la FIM, sur Internet ou juste par curiosité. C'est le jeudi 14 novembre de 19h à 20h, oui, Fab Lab, rue Cour-Commer, 26400 Cré.
Et vous avez raté une projection hier soir.
Oui, mais ça, ils ne peuvent pas savoir. Attends.
On n'a pas pu vous l'annoncer avant.
Ah bah oui, mais si tu ne nous le dis pas.
Eh bien, je l'ai su très tard.
Formation impression 3D au Fabrico. L'impression 3D vous intéresse? Vous voulez vous lancer, découvrir les possibles? Venez vous former. Donc, c'est payant après adhésion. Donc, ce sera le samedi 16 novembre de 10h à 12h30 au Fabrico, 7 rue Belle Image à Valence.
Et, ben ouais.
Et c'est tout pour l'agenda. Passons au lien des liens. Qu'est-ce que tu nous as trouvé, MMU?
Alors, quelques petites choses. Alors, Limites Numériques, un projet de recherche sur la conception d'un numérique s'inscrivant dans les limites planétaires, a besoin de vos contributions pour un futur papier de recherche, si. On aimerait que vous nous partagiez vos captures d'écran montrant comment les interfaces d'application nous poussent et parfois nous forcent à utiliser l'IA. On est en train d'écrire un article là-dessus, ça peut être des mots, des pictos, des boutons, des pop-up, des interactions, etc. Notre messagerie Mastodon est ouverte, donc comme d'habitude, on vous mettra les liens sur underscore.radio.fm. La CNIL a une procédure déceptive pour porter plainte, paraît-il. Elle fait tout pour que vous ne puissiez pas porter plainte. La procédure pour contourner son parcours du combattant existe quand même, parce que s'il faut se créer un compte, se connecter, puis ne pas cliquer sur déposer une plainte, ce qui est quand même bizarre, parce que c'est ce qu'on veut faire a priori. Donc Aeris, qui est sur Mastodon, propose donc un document pour nous aider. Et avec son assaut pur, ils ont saisi le Conseil d'État justement au sujet de ce parcours dolosif et dilatoire et rédigé une lettre ouverte, en vain pour le moment. Et l'association Pure lance également une autre lettre ouverte à la CNIL pour l'enjoindre de faire son job, en fait, suite aux nombreuses fuites récentes. Coucou Free, n'hésitez pas à la signer si vous aussi êtes impacté.
Et pour finir?
Et pour finir, un petit peu de rétro, Minimit, le petit boîtier qui rend son utilité au Minitel en se connectant au Wi-Fi pour proposer la météo, des news, des jeux,
je
tout ça. Ouais, ouais, on en a un au Fabrico. Fait son retour avec un dernier lot de fabrication. Alors, ils ont annoncé, on refait une fabrication, mais c'est la dernière, promis.
Ah.
Donc, allez-y vite.
Bon, je vais devoir le commander au Père Noël.
Voilà. Alors, c'est un petit peu cher, mais c'est vrai que c'est un produit fini. C'est pas un Raspberry Pi qu'on branche avec trois fils qui pendouillent. C'est un peu plus classieux. Donc, si vous avez un Minitel et que vous voulez en faire quelque chose, ça peut être amusant.
Je veux bien ça. Merci, Cécile, pour Noël.
Tu vois, j'ai déjà ta liste.
Eh ben, puisque c'est ça, tu seras chargé de t'occuper de l'émission spéciale cadeau de Noël.
Aïe, aïe, aïe.
Alors déjà, il y a la Koenigsegg en Lego. Tu notes. Bien, merci MMU. Passons à l'astrologique en frottant cette boule.
Voilà, là, c'est à moi maintenant.
C'est ça.
Donc, gamer, je sais pas.
Technobéa, j'ai joué au loto correct.
Technocritique. L'IA générative, c'est une machine à faire des moyennes. C'est donc la machine du Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge, c'est entre l'Antiquité et l'âge classique.
Codeur, est-ce qu'on peut déclarer un lambada en Python ?
Graphiste, reviens Léon, j'ai l'image à la maison.
Électronicien, attends, juste une mise au point. Sur ce montage, le quartz s'appelle Jackie. Jackie Quartz.
Ah ah,
il y en a rien qui a capté, c'est bien.
T'as la ref ?
Ah oui, c'est moi qui l'ai écrit.
Non, mais c'est ce que j'ai rajouté.
Oui, oui, oui. Juste une mise au point.
Ah, il nous manquait de la musique pour la fin.
Ah oui, bah oui, voilà.
Vous savez que comment elle a eu son nom, Jackie Quartz ? Elle a cassé sa montre à quartz.
Sur ma montre Seiko à quartz, il est très exactement à peu près 15h.
Voilà.
Voilà.
Eh bien, Marty.
Marty ?
On lui dit
oui,
merci.
Oui, Marty ! Je suis de retour du futur. C'est dommage. Et je te dis que l'émission, elle est finie.
Non, mais c'est dommage. Tu aurais pu venir le 16 novembre. Tu aurais pu te démultiplier et venir nous voir.
Eh bien, oui, mais.
Tristesse.
J'étais pas dispo.
Bon, amis auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. Ce numéro a été préparé par MMU, Cécile, Madbel, Roudou, Flo, enfin tout le monde. Et puis Laurie aussi qui est là à côté, qui lit attentivement le fil.
C'est ça, Laurie, elle fait jolie, mais elle n'a pas parlé.
C'est
envoie,
ça.
Envoie des mots de passe à sa mère.
Chut, on ne dit pas les mots de passe en clair.
Ah non, c'est chiffré.
C'est chiffré. Et c'est enregistré dans les studios de Radio Méga. Donc c'était Underscore sur Radio Méga ou Cactus. Retrouvez tous les liens et notre podcast sur underscore.radio.fm. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet avec la radio en fait. La radio.
Si tu le dis.
Hein, vous êtes d'accord?
Ah bah oui.
On te fait confiance.
Oui. Je serais malin, je passe une radio, allez, hop.
Allez, on va pas faire ciao. Cliché quand même.
Cette bande de bras cassés.
Hey, on n'a pas fini, hein. Oui. Allez, salut.
Bye bye.
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 Alors, ciao.
Bonjour, les mecs.